De retour à l'eau showbiz sur les ondes de CJSO. Aujourd'hui, très content de recevoir, et là je vais peut-être vous vieillir un peu, deux légendes de la musique au Québec, Rick Hayworth, Mario Légaré. J'ai reçu souvent Ian Kelly à l'émission,
oui.
Mais quand on m'a dit que c'était vous deux qui allaient être là, j'étais bien content aussi.
Ah, merci.
Super content
merci.
D'être là.
On est recevoir. Vraiment content. Oui.
Et là, on a pris accord qu'on allait se tutoyer.
Oui, hein, on est entre amis ici, alors tout est parfait, on est bien content d'être ça.
Puis moi, j'ai plus à conjuguer avec vous.
Rick, moi, ça existe pas en anglais, vous.
Non, c'est ça. On est très casual, nous autres.
Exact.
Tout d'abord, c'est rare quand même que vous faites des entrevues, les deux. Que...
Parce que c'est rare.
Ouais. Vous êtes dans cette position-là, up front.
Exactement.
Vous accompagnez des artistes sur scène.
Exact.
Ouais. On a donné quelques-uns pour notre groupe Magneto, notre groupe de musique instrumentale, mais c'est quand même assez rare.
Comment est né, M. Chandler, ce projet-là dont on parle aujourd'hui avec Ian Kelly? Comment c'est né, ce projet?
Ben, en fait, le projet, on était, en tant que groupe Magneto Trio, à un spectacle à Sainte-Thérèse pour lancer la programmation de la saison. Et puis, il y avait Ian qui était là aussi. Puis, en arrière-scène, Ian nous écoute. On écoute Ian. Puis, les deux, mutuellement, on a apprécié beaucoup la façon de faire des deux. Puis, la musicalité de Ian. Nous autres, on a, sa voix est magnifique. On a vraiment beaucoup aimé ça. Et puis, Ian nous a comme reparlé. Lui, il a des bonnes installations chez eux. Ce qui fait qu'il nous a comme invités à faire un genre de participation ensemble. Puis c'est devenu tout naturel, hein, Rick?
Ouais, c'est vraiment ça. On est allé chez Ian. Il nous a dit, écoute, on était dans la cuisine, on parlait musique, qu'est-ce qu'on pourrait faire, la possibilité d'écrire ensemble, d'écrire des chansons, chose qu'on n'avait jamais fait. Mais Mario, il écrit un petit peu dans le temps d'octobre. Là, il dit « Mais écoute, viens-t'en en bas, on va aller visiter le studio. » On a tous vu des studios maison des milliers de fois dans nos vies. Tu descends dans le sous-sol, puis c'est cool. On descend dans le sous-sol de chez Ian, puis on découvre que non, c'est un ajout à la maison assez sérieux.
Okay,
qu'il y avait.
Okay.
C'était débile.
C'est pas un petit studio.
Non. C'est un full-on studio, hyper confortable, hyper bien équipé. Là, il dit, écoute, tu penses-tu qu'on pourra faire de quoi ici? On était tous là comme, ouais, pas de problème.
Oui, tu ouvres la porte, on veut y aller, faire de la musique ensemble.
On s'est installé, la prochaine fois qu'on est allé, on s'est installé, puis on a juste commencé à jouer. Comme nous autres, la façon de procéder avec Magneto, c'est qu'on joue. On n'a aucune, il n'y a rien de préparé.
C'est un jam, donc.
C'est un jam, ouais. Okay. Un jam complet. On invente, puis nous autres, on faisait ça, puis Ian, il inventait des mélodies, il y avait un petit cahier avec des ébauches de texte. Puis qui commençait, et en dedans de, je pense, 5 ou 6 rencontres, on avait 15 pièces d'écrit. Écrit et presque arrangé, là. C'est comme, ça sonnait déjà comme un band dès le premier jour.
Et est-ce que vous aviez ce désir-là de vous partir un band, les deux? Parce que Magneto existait déjà, vous avez souvent accompagné les artistes sur scène, mais de dire « on a un band », est-ce que vous l'aviez encore, ce désir-là?
Ben, nous autres, tu sais, tout ça s'est défini tellement rapidement, puis naturellement, c'est ça qui est la beauté dans tout ça. Ian puis Magneto, c'est comme si ça allait bien ensemble, puis c'était vraiment pas forçant. Ils faisaient des belles mélodies à travers les atmosphères que nous, on avait le plaisir de créer. Puis lui, c'est comme imbriqué, émissé parmi nous, les trois gars de Magneto, Sylvain, Eric et moi, puis ça s'est fait vraiment naturellement. Puis il trouvait des belles mélodies, et vraiment, il y a une belle voix et tout. Alors, pour nous, c'était juste comme, on partait de rien, puis ça apparaissait tout seul. C'était assez le fun, vraiment.
Est-ce que c'est dur d'ajouter quelqu'un dans ce band-là qui est Magneto Trio, dans le cas de Ian Kelly, parce que vous autres, vous avez une chimie, vous vous connaissez, quand vous jammez, il y a quelque chose de naturel qui est là, vous connaissez depuis tellement longtemps. Ian arrive dans le décor, est-ce que ça embarque naturellement?
C'était quand même... Le côté naturel, c'est un mot qui risque de sortir souvent aujourd'hui. Il n'y avait aucun effort pour rien. Nous autres, on faisait ce qu'on fait d'habitude, puis lui, il s'est greffé là-dedans d'une façon très naturelle, très aisée. Puis c'était juste le fun, puis ça sonnait super bien. Puis nous autres, avec Magneto, comme on est des accompagnateurs, puis souvent le côté mélodique de ce band-là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille vraiment beaucoup pour l'exploiter, parce que c'est pas de notre nature. D'habitude, il y a un chanteur qui s'occupe de ça.
Oui.
Autres, on fait l'ambiance autour de ça. Mais là, avec Ian, c'était comme OK. C'était comme on pouvait créer notre monde à nous. Lui, il arrivait avec les mélodies et tout ça. Et c'était vraiment comme... Tout était juste comme trop facile. J'attends tout... Étant de nature un peu négatif dans la vie, j'attends toujours le bad news qui arrive. Là, t'sais, comme, jusqu'à date, tout va bien. Là, t'sais, mais... non, c'était vraiment... C'était vraiment simple, et agréable. Comme quand même, ouais. Mario et Sylvain, c'est deux de mes meilleurs amis. C'est le monde avec qui j'ai le goût de passer du temps. Et Ian, il est rentré là-dedans parfaitement.
Je sais que l'histoire change à tous les jours, mais le nom M. Chandler vient de où? Mettons, l'histoire d'aujourd'hui, c'est laquelle?
Ça, c'est drôle parce que on appelle ça Monsieur Chandler parce que c'est ouais. M. Chandler, mais okay. Originalement, ça vient de moi. Originalement, c'était Muriel Chandler,
okay.
Qui était, ouais, mais on a le M qui, pour le côté francophone, c'est devenu Monsieur. Muriel Chandler était un ami de ma sœur que quand j'avais 17 ou 18 ans, je pense, j'ai aidé à déménager. Puis elle voulait me donner de quoi à la fin de la journée pour aider à l'avoir déménagé, mais elle n'avait pas de cash. Puis elle dit, écoute, il y a une couple de guitares dans le coin, c'est que sers-toi. Que j'ai poigné un petit Gibson acoustique des années 60, qui fait, puis que j'ai encore aujourd'hui. Puis que, mais pour Muriel, on a nommé le band Muriel Chandler.
C'est un bel honneur. Moi, je trouve ça super.
Pour avoir lu l'article dans Le Devoir, c'est jamais la même histoire. Vous changez à chaque fois.
Ah? Ah oui?
Ah, ça me dit rien, ça. Je sais pas.
Mais c'est ça. Mais on va s'amuser avec ça, M. Chandler. J'ai l'impression qu'on va retrouver différentes significations du M. Chandler. Puis, en tout cas, on va attiser l'affaire.
Pour paraphraser, ça dit que ça en français, paraphraser?
Oui, oui.
Michel Rivard, M. Chandler, c'est une énigme.
Énigme.
C'est comment pour vous d'être... Parce que Ian Kelly vous fait beaucoup de place dans le band. Vous êtes carrément dans le band, alors que souvent, vous êtes là, on vous présente, mais vous ne faites pas partie intégrante de l'aventure. C'est comment là, de dire « on prend un rôle en avant »
Ben, c'est quelque chose...
Il faut se le rappeler tout le temps, de dire « ben oui... »
Ouais, mais je dois dire que Ian, tu sais, son intuition de se sentir avec nous était désirée. Et puis, il nous laisse la place. D'ailleurs, je disais justement à Rick, en s'en venant ici, venir vous voir, que on s'est laissé aller, puis c'était quasiment des impros qu'on faisait en composant les tunes. C'était quasiment des démos, comme on dit. Et puis ça, c'est parce que Ian laissait la place à la musique. Donc, nous autres, on prenait une place sans s'en rendre compte. Mais, tu sais, à travers les années aussi, on s'est comme affirmé. Magneto a été une belle affirmation pour nous. On adore, on aime ça, accompagner les autres. Mais là, on prend notre place, puis Ian nous a vraiment bien accueillis.
La chanson « Vieillir à mort » tourne beaucoup dans les stations de radio. Ça a été un beau succès. On la tourne beaucoup ici, entre autres.
C'est la surprise de l'année.
C'est comment pour vous autres, ça? Parce qu'évidemment, on fait pas ça pour ça, mais quand ça arrive, c'est le fun.
C'est tellement le fun. Et c'est quand même... l'autre jour, je racontais à quelqu'un que j'avais arrêté de mettre du gaz dans mon char, puis quand je suis rentré là-dedans pour le payer mon gaz, ça tournait à radio, puis ça m'a vraiment fait de quoi. Puis ils m'ont regardé et ils m'ont dit, « Non, mais Rick, c'est pas la première fois de ta vie, tu t'entends à radio. » C'est comme, « Non, mais c'est... » Comme première, c'est toujours le fun de s'entendre à la radio. Moi, je suis un fan de radio. Je trouve que j'adore l'histoire de la radio. La radio était importante pour tellement de choses dans la vie. De m'entendre à la radio, même après 42 ans de carrière, ça me fait un buzz, là, tu sais. Puis là, c'est une tune que j'ai co-écrit avec mes amis, puis que c'est un band, tu sais, que ça porte le nom d'une femme qui m'a donné une guitare. Que ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je suis tellement surpris parce qu'on a fait... Le projet, il n'y avait aucune attente. C'était pas comme genre, OK, on va faire ça, puis comme... On a juste fait parce qu'on avait du temps, puis il y avait un studio, puis on avait le goût de hanger ensemble. Et que là, c'était juste fait comme ça. Puis là, quand ils ont annoncé, mais écoute, on va sortir un extrait pour la radio, on était tous comme, mais voyons donc, comme, voyons, pourquoi tu fais ça? C'est une perte de temps totale. Là, quand les postes, ils ont commencé à playlister ça, moi, j'en venais pas. J'étais vraiment, vraiment surpris. Agréablement surprise. Mais
Et une belle tournée qui s'en vient avec ce projet-là aussi. Ouais. Ça, c'est le fun de voir que les diffuseurs embarquent dans ce concept-là, dans cette aventure-là, d'un band qu'on ne connaît pas.
Oui, qu'on connaît pas, puis que c'est rapide. C'est,
ben oui, c'est tout pour ça qu'on après la sortie,
on a hâte de que les gens puissent découvrir ce qu'on fait. T'sais. Alors, on est vraiment... comment on dit ça, j'ai le mot anglais. On surfe sur la vague. On est sur la vague, puis on se laisse porter par la vague. On aime ça total. Puis effectivement, que d'entendre une chanson... qui tourne à la radio, je peux vous dire que moi, la première tune que j'ai entendue d'octobre dans les années 70, ça m'a fait un...
radio à vapeur.
Oh. La radio à vapeur, comme dit Rick. Ben, ça m'avait fait quelque chose de vraiment...
Sûrement,
ouais. Ça m'avait ému beaucoup. Et puis de réentendre une de nos tunes actuellement, c'est super. Parce que la radio, des fois... c'est comme un cadeau pour nous. Là, c'est une ouverture, c'est bien.
Tellement. Est-ce que la fierté est différente quand on a cet album-là dans nos mains que des albums auxquels on a collaboré, par exemple, ou on a réalisé? Là, celui-là, on a travaillé du début jusqu'à la fin là-dessus.
Pour moi, ça dépend. Il y a deux sortes d'albums. Il y a des albums que je peux faire comme juste un musicien engagé où tu rentres puis tu connais pas vraiment personne, puis tu arrives, tu joues tes affaires, puis tu t'en vas à la maison après. Ça, c'est comme... J'en ai fait beaucoup de ça. Il y a d'autres albums où est-ce qu'on est vraiment impliqué. Les albums de Michel, les albums de Paul Piché, les premiers albums de Daniel Bélanger, où vraiment comme je sentais que j'avais un rôle assez important dans ces disques-là. Ça, c'est un peu comme Mr. Chandler. Comme, mais tu sais, quelqu'un que j'ai vu l'artiste pendant 20 minutes, il y a peut-être moins une implication personnelle. Il y a quand même une fierté si je pense que j'ai bien fait mon travail. Je suis quand même de ce bague-là. Là. J'aime bien faire mon travail.
Est-ce que c'est la même chose pour toi, Mario? Est-ce que la fierté... Est...
Toujours. Ben, tu sais, déjà, d'avoir la chance d'enregistrer, de jouer sur des chansons, que quelqu'un t'appelle, te dit « Hey, j'ai besoin de toi pour faire une chanson ou un disque », ça, déjà, c'est un cadeau qu'on te fait. La musique, c'est un cadeau dans tous les sens du terme. Puis pour moi, du moins, c'est un peu notre mode de vie à nous. On y tient beaucoup. Alors, mais quand, en plus de ça, tu as une amitié qui s'est développée à travers des décennies maintenant, puis là, une amitié comme ça, rapide, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Puis comme Magneto, on a un beau projet avec Magneto qui est peut-être un peu plus focusé, mais on y tient beaucoup. On aime beaucoup notre Magneto trio. C'est comme une façon de s'exprimer musicalement, puis c'est une chance qu'on a de pouvoir faire ça. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement, mais nous, on en profite du mieux qu'on peut.
Est-ce qu'il faut que ce soit des albums qui se tiennent du début à la fin? Parce que, évidemment, vous êtes de cette école-là, c'est comme ça que vous avez appris la musique, c'est ce genre de disque-là que vous avez fait, c'est ce genre de projet-là auquel vous avez collaboré, mais maintenant, la musique se consomme plus comme ça. Non. On l'écoute à l'envers, on l'écoute mêlée avec d'autres artistes, on a des playlists un peu bizarres dans nos téléphones et un peu partout. Mais est-ce que quand on enregistre un album, on a envie que ça se tienne de la première chanson jusqu'à la dernière, encore maintenant?
Moi, je suis vraiment un consommateur d'albums. Je pense que dans ma vie, comme d'acheter un single sur iTunes, une chanson simple, je pense que je l'ai faite deux fois. Moi, j'achète des albums. Moi, je veux savoir qu'est-ce que l'artiste y a à dire.
Globalement,
ouais. Je pense qu'une des choses les plus pertinentes que j'ai entendues, c'est une entrevue avec Brad Paisley, un chanteur country américain que j'adore. Puis il a dit, la façon qu'on consomme la musique maintenant, en étant de retour à un marché de simple, de une chanson à la fois, ça a changé la façon que les gens écrivent. Parce qu'avant ça, surtout dans le country, tu pouvais être un auteur-compositeur qui plaçait une ou deux chansons sur un album qui c'était pas des tunes de radio, c'était pas des extraits, mais juste le fait que c'était sur un album qui vendait 10 millions de copies ou whatever, tu pouvais gagner ta vie avec une bonne chanson qui n'était pas nécessairement un hit. Maintenant, ça n'existe plus. Tout le monde, il faut qu'il écrive les hits. Il faut qu'il y ait un hook, le hook, le bout catchy. Là. Il faut qu'il y en ait dans le couplet, dans la partition de guitare, dans le refrain. Il faut que les gens y écrivent pas de la même manière. Nous autres, on a été peut-être moins victimes de ça parce qu'avec Magneto, ça n'a aucun espoir d'avoir un hit à aucun moment. Mais moi, j'aime l'idée de s'il y a un artiste que j'aime, je veux voir, je veux entendre tout ce qu'il a fait. Comme moi, je suis comme ça. Si je découvre un artiste, mais avec une chanson, je vais acheter l'album et je vais retourner voir c'était quoi les autres albums avant, parce que je veux savoir qu'est-ce que cet artiste-là a à m'offrir, là. La globalité de l'affaire. Mais...
Même chose pour toi, Mario?
Total, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aime beaucoup... c'est sûr, quand je vois apparaître des chansons individuellement, je vais être attisé, mais pour approfondir éventuellement avec ces artistes-là. Alors, j'aime ça, écouter des longs jeux, des tu sais, toute la... Je suis des... Naturellement, à travers les années, on suit des artistes qu'on aime beaucoup. Toi aussi, je suis sûr de ça. Tu es un fan de musique. Ouais. On approfondit là-dedans. Je suis entièrement d'accord avec mon chum Rick.
Ça remonte à quand, cette amitié-là, justement, entre vous deux?
Oh!
Rick, okay, moi, la première fois que je t'ai parlé, je suis allé voir un show de Michel Rivard. C'était le Original Flybin Band. C'était la tournée de Longueuil à Berlin. Je suis allé voir ça au El Casino à Montréal. Je connaissais pas Michel du tout, étant anglophone, c'était vraiment comme, je connaissais absolument rien dans la musique francophone.
Donc, même pas Beaudommage?
Je connaissais le nom, puis il y avait peut-être une ou deux tunes que j'avais entendues. Je pense que le Picbois, je connaissais. Une amie, en fait, ma blonde à l'époque, a dit, écoute, qui était francophone? Elle a dit, on va aller voir ça, tu vas triper, je suis sûr. Puis, c'est comme, ma tête a explosé. C'était vraiment comme, c'était une planète que je connaissais pas. Je suis allé voir Mario après le show pour lui dire à quel point je le trouvais incroyablement bon. C'était vraiment comme... Après ça, je suis retourné voir Rivard à l'Outremont, qui était vers la fin de la tournée de Longueuil à Berlin, je pense. Puis à ce moment-là, je dis, OK, moi, il faut que je joue avec ce gars-là. Puis là, j'ai commencé à découvrir beaucoup plus de musique francophone à ce moment-là. Donc, ça, c'était quoi, en 77-18?
Oui, exact, dans ce
coin-là. Wow, je suis donc bien vieux.
Je ne dirais pas l'âge que j'avais en 78.
T'es gentil, Luc, de penser comme ça.
Le rire de Mario était vraiment bien entamé à ce moment-là. Là.
Je pense que j'étais déjà à la retraite dans ce temps-là. Moi. Non.
Ouais.
Et au fil du temps, vous êtes devenu le Flybin Band.
Oui.
Vous êtes des membres du Flybin Band de Michel Rivard.
On est devenu une version du Flybin Band.
C'est ça.
Oui. Effectivement, Michel, il va, tu sais, dépendant de chaque nucléus musical, il va l'appeler le Flybin Band. C'est l'évolution du Flybin Band. Alors, il y a eu ce Flybin Band-là.
Mais
toi, t'es
le seul membre original.
C'est vrai, hein? Ouais. C'est ça. Ben, Michel, il m'endure encore. On est des bons amis encore. C'est sa fête il n'y a pas longtemps. Il se passe bien. Ça se passe bien avec Michel aussi. Là. Il a un beau projet qu'il va vous annoncer bientôt.
Vous avez fait partie de plein de projets qui ont eu un immense succès. Là, on a parlé des premiers albums de Daniel Bélanger, les gros disques de Paul Piché, les beaux projets de Michel Rivard. C'est une chance d'avoir participé à tout ça qui a été... grande partie de l'histoire de la musique au Québec, en tout cas.
Ah,
d'albums marquants au Québec,
c'est
en tout cas.
C'est fou comment c'est chanceux, ça. C'est... Ouais, c'est de la magie du moment. Il y a des trucs... on ne sait pas comment un artiste choisit un musicien. Est-ce que c'est strictement musical? Est-ce que c'est humain? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son affaire? Mais tu sais, comme dans mon cas, à moi... comme Michel, mais moi j'ai commencé avec Steve Faulkner, puis je pense que Michel, il était intéressé par le pedal steel guitare que je jouais avec Steve, c'est que à cause de ça, j'ai embarqué dans le band à Michel, je rencontre Mario, Piché m'entend avec Michel, une affaire à l'autre, puis c'est vraiment, il y a une énorme série d'addons, là, de coïncidences, juste, je me considère vraiment le gars le plus chanceux de la planète, là, parce que je fais le meilleur job au monde.
Et avant tous ces projets-là, pour toi, Mario, il y a eu Octobre, qui est un des bands mythiques dans l'histoire de la musique au Québec. À quel moment on s'en rend compte que ce band-là marque l'histoire de la musique au Québec?
Ben, en fait, je suis toujours content, je suis choyé de savoir que Octobre, tu sais, on était des ticus, là, Pierre, Jean, Pierre Hébert et Pierre Flynn, Pierre Hébert, Jean et moi. Puis, tu pars quelque chose, tu sais pas où ça peut mener. C'est la beauté de la musique, d'ailleurs, on sait jamais où ça peut nous mener. Puis, ne serait-ce qu'en amitié. Et puis, Octobre, encore dernièrement, tu sais, c'est étrange, il y a un rapper.
Ils sont rendus vedettes des hip-hop, eux
autres. Ouais, il y a un rapper qui a refait une version d'Octobre.
Qui a pris on appelle ça un sample, un échantillon. Ouais. Merci, Rick. Hein? Rick me corrige, c'est bon.
C'est Rick qui dit les mots en français, c'est pas
pire. C'est ça, il est hot. Et puis, effectivement, ils ont pris un échantillon, puis on a découvert ça dernièrement, un rapper américain.
De quelle chanson?
Une chanson « Viens vivre » qui est notre première chanson. Okay. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je devrais en parler, là. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé dernièrement. Mais tout ça pour dire que Octobre, ça a été le début d'une grande chance pour moi, une belle aventure, où est-ce que ça m'a amené à bien des affaires. On a fait des rencontres à travers les temps fantastiques. T'sais, j'ai toujours pensé que la musique te fait voyager. Déjà en partant individuellement, dans ta tête, tu joues, tu fais de la musique, tu découvres des affaires. Tu sais jamais où ça peut te mener. Puis Rick et moi, entre autres, on a voyagé pas mal aussi à travers l'Europe grâce à notre bel ami Lassa. Puis tu vois, alors tu sais jamais où ça peut te mener. Puis ne serait-ce que t'amener dans ton cœur, tu sais, dans ton âme, tu sais. Alors, excusez-moi.
Je suis ému. Et alors qu'on est dans une ère de revival de band, est-ce qu'Octobre pourrait revenir?
Ben, en fait, il y a eu dernièrement avec Petite Vallée, il y a eu une réunion de plein d'artistes qui sont très chers à la Gaspésie, on aime notre Gaspésie, on aime nos chums. Là, on a un chum là-bas, Alain de côté, puis toute l'équipe là-bas de Petite Vallée.
Qui l'ont pas eu facile dans les derniers mois.
Dernièrement, mon Dieu, l'acharnement sur eux qui fait qu'on s'est réunis octobre pour participer à une collecte de fonds pour... Et puis, on a beaucoup aimé ça. Mais pas juste octobre, là, plein, tu sais...
C'était tout... cool, parce qu'il y avait la réunion de Carquois ce soir-là. Il y avait Michel avec le Flybin Band. Il y avait Marie-Pierre Arthur avec son Power Trio. Et il y avait le retour d'octobre. Pendant qu'octobre jouait, moi, j'étais en coulisses, puis je les regardais, puis j'étais avec tous les musiciens, les jeunes musiciens des autres bandes. Et tout le monde capotait, les autres musiciens, de voir ça devant leurs yeux. Puis vraiment, les gars étaient en feu, comme j'ai rarement vu, là. C'était... Moi, j'étais ému, là. J'étais en coulisses, puis j'étais comme, man, on voit une machine, une maudite machine qui joue en ce moment. C'était slick, hein?
T'es vite, Rick. Ben, imaginez-vous, moi, comment j'étais ému, puis de voir aussi la réaction des jeunes qui en a qui connaissaient un peu. Il y avait naturellement de notre génération aussi. Puis de les voir réagir comme ça, c'était une belle soirée, vraiment.
Ouf!
Ben, on s'était préparé, puis on voulait y aller comme la pédale au fond.
Qu'est-ce qui vous fait choisir un projet maintenant? Parce qu'évidemment, il y a les amis qui rappellent, il y a ceux avec qui on travaille depuis longtemps, mais il y a les nouveaux aussi qui veulent travailler avec vous autres. Depuis quelque temps, tu tournes avec Johan, entre autres.
Avec Johan, oui.
Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un jeune artiste ou un nouveau projet, quelqu'un qu'on connaît moins, par exemple, pour l'accompagner ou pour être avec lui là-dedans?
Johan, c'était bizarre parce que quand j'ai été appelé pour le rencontrer, je suis allé de reculons. Un snobisme, j'imagine, je suis pas sûr, mais c'est une télé-réalité. Est-ce que ça me tente vraiment d'embarquer dans ce genre de grosse machine, grosse production avec des attentes très élevées? Ça me tentait pas beaucoup, mais la personne qui m'avait appelé, Anne Vivien, qui est maintenant chez Musicar, elle m'avait appelé, puis Anne, je la connais depuis super longtemps, je la respecte beaucoup, puis c'est une amie, c'est-à-dire que de politesse, je suis allé. Je rencontre Johan en dedans de 3 minutes. C'était comme, hey, t'es donc bien fin, toi. Puis là, on a parlé musique pendant 3 heures. Puis je le testais. Je nommais des artistes qui n'avaient aucune raison de connaître dans le music country, la musique de Roots, puis tout ça. Ils connaissaient tout. Ils me jouaient des tonnes d'eux autres. C'est comme, OK, t'es un vrai, là. Puis archi fin. Comme, tu peux pas imaginer à quel point il est gentil.
Ouais.
Ça fait que là, on a dit, OK, moi, j'embarque. Ça, c'est cool. Puis souvent, des projets, moi, je... Ça, c'est le genre de... Est-ce que j'ai le goût de passer du temps avec ce monde-là, tu sais? Puis, est-ce qu'il y a un artiste comme... Depuis 7 ans, je suis dans la house band pour le festival de chansons de Granby. Hein? Puis là, on les voit tous passer, là. On voit bien du monde passer. Puis, il y a du monde comme quand il y a un Safia Nolin qui passe, comme... Ah ouais! Ça, c'est sérieux. il y en a, à chaque année, il y en a deux ou trois, c'est comme, OK, ça, c'est juste un autre calibre, là, tu sais. Puis moi, c'est souvent des coups de cœur de même, comme, comme Lassa, comme Mario, il a parlé de Lassa tantôt, puis Lassa, elle choisissait ses musiciens, mais la tournée que nous, on a faite, elle a choisi ses musiciens pas pour leur musicalité, c'était vraiment par leur humanité. Mélanie Auclair, qui jouait du violoncelle sur cette tournée-là, l'entrevue ou l'audition pour la tournée, c'était aller boire du thé avec Lassa, puis on jasait pendant une couple d'heures. Puis elle n'avait jamais entendu jouer une note, puis comme tu fais la tournée. T'sais. Alex McMahon, il a manqué la même chose. Elle n'avait jamais entendu jouer une note.
Okay. Elle voulait des gens avec qui ça cliquait.
Tu sais, on va passer des heures et des heures et des heures dans une camionnette. Je veux que ce soit du monde correct.
C'était comment tourner avec Lassa?
Ah, go Mario.
Oh mon Dieu, c'était... C'est ça, c'était magique, c'était émouvant. Déjà, toute la naissance de Lassa, qui, tu sais, c'est parti... Les chansons sont apparues tout naturellement, mais tourner avec Lassa, c'est comme de l'émotion pure. L'entendre chanter, c'est de l'émotion totale. Tu peux pas aller plus émotif et profondément dans le fin fond de ton cœur et ton âme, là. C'est une grande personne. Tu sais, il y a des gens comme ça, humbles mais grands, tu sais. Puis partout où ce qu'elle passait, il se dégageait quelque chose de tu sais, c'est pas pour rien que... Puis, tu sais, c'était pas une chanteuse de radio qui...
Non,
qui,
c'est vrai. Non, mais il y avait un public fidèle qui était en amour là. Avec elle.
Oui, total. Tu sais,
on jouait des places où les disques étaient même pas disponibles, puis les salles étaient pleines. Tu sais, comme...
C'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais.
Je sais pas si c'était pareil, mais moi... Comme accompagnateur, il fallait que je change complètement mon approche à mon instrument avec Lassa. Juste de jouer les bonnes notes au bon moment avec le bon son, c'était pas assez, là. Il fallait que je creuse dans un côté émotif, qu'en étant un vieux anglais ben straight, là, c'est pas la première chose qui me saute dans la tête, là.
Ben parce qu'il y a un univers autour
mais
de
elle,
Lassa.
Mais elle, c'était tellement deep, son affaire, c'était tellement à peau de fleur, comme on dit. Puis
oui.
Il fallait que j'aille à la même place autrement que je manquais le train. Ouais. Il fallait vraiment que je joue mon instrument d'une autre façon complètement avec elle. C'était hallucinant, là. Puis on a vécu des moments de magie pure en tournée que c'est des choses qui vont rester dans nos têtes, nos cœurs pour le restant de nos vies. Là. C'était vraiment... Puis on a visité des places comme... J'adore le milieu musical du Québec, puis la richesse qu'on a, puis on a une industrie qu'il y a peu de place avec un si petit bassin de population, tu sais. Mais quand même, c'était fun d'aller jouer à Istanbul, puis en Roumanie, puis des places de même. Ça, c'était cool.
L'industrie du disque, évidemment, va beaucoup moins bien qu'il y a quelques années, mais il y a beaucoup de jeunes artistes qui sortent des projets. Évidemment, on a parlé des téléréalités, mais il y a plein d'autres artistes qui sortent des projets. Est-ce que c'est inquiétant pour eux autres, vous, avec les deux, avec le regard que vous avez sur ces années-là que vous avez connues?
Comment te dire? Tu sais, maintenant, la disponibilité avec les ordinateurs, la qualité musicale peut être rendue de plus en plus... d'une façon large, là, tu sais. Maintenant, là, si tu as un bon système pour enregistrer, tu peux faire des affaires, des musiques. Alors, je trouve que ça ouvre les horizons. Je trouve que les horizons sont ouverts aussi parce que avec tout ce qui est Internet, YouTube et tout, tu sais, tu vas écouter de la musique africaine, de la musique brésilienne, tu vas écouter de la musique du rap heavy. Tu sais, toutes les musiques, tout élargit, tout grandit, tout... Puis ça, je souhaite bonne chance, entre autres. J'ai un fils qui a un band, ça s'appelle Clay and Friends, je ne veux pas faire...
Oui, que je connais, mais oui.
C'est vrai, bon.
Ouais, c'est vraiment bon.
Puis là, je me dis, est-ce que... tu sais, comme papa, là, tu sais, en tant que papa, je me dis, ah, mon Dieu, est-ce que c'est la bonne chose qu'il fait d'aller là-dedans? Mais je vois sa dévotion, puis je vois que ceux qui veulent durer peuvent durer. Je le souhaite parce que les moyens sont de plus en plus difficiles, mais je le souhaite à tous ceux qui veulent faire des bonnes musiques, qui se dévouent, qui se donnent. Puis je regarde aller mon fils, je suis bien fier, naturellement, comme papa, là. Mais il y a des belles affaires qui apparaissent là, dans le paysage musical. C'est dommage que, des fois, la distribution ne suit pas le talent. Ouais. C'est juste dommage, tu sais. Mais il y a des belles choses qui se passent.
Les artistes, on l'a dit, peuvent maintenant avoir des studios très performants à la maison. Ian Kelly, c'est un excellent exemple. Quand vous avez commencé, c'était beaucoup des studios officiels, là, avec un meter qui tourne, puis un budget qui vient avec. Ouais. D'être chez Ian et d'enregistrer à l'heure qu'on veut, le temps qu'on veut, l'avez-vous senti, cette liberté créative-là qu'on ne peut pas avoir dans un studio où il y a un punch, où on sait à quelle heure on commence, puis on sait à quelle heure on finit parce qu'il y a un budget?
Chez Ian, c'était définitivement un cas de ça. Puis on dirait que c'est quasiment un peu partout dans l'industrie. Je dirais, il y a un phénomène qui s'est passé il y a peut-être 10-12 ans quand, disons que l'argent est disparu de l'industrie du disque. À place de fermer l'industrie, ce que ça a fait, ça a libéré les artistes. OK, là, on n'a plus besoin de penser à nos 3 singles, les ventes de disques. Ça ne vendra pas anyway. C'est qu'on va faire le disque qu'on veut. Puis avec les prix de technologie qui ont chuté, tout le monde y a un laptop avec un système d'enregistrement, puis un bon micro, puis un preamp. Il y a des disques super marquants. Le premier disque, je pense, de Public Enemy a été fait avec un sampler, un micro, puis une table tournante. Tu sais, puis c'est quand même un album assez important. Tu sais. DJ Sharon, même chose. Surtout dans les hip-hop, c'est des choses de... T'as-tu le bras fatigué, Mario? Oh, Mario, là, j'ai fait tenir le micro depuis tout à l'heure. Mais c'est ça, comme la technologie est tellement disponible maintenant que tout le monde peut faire un disque. Tout le monde peut faire un deuxième disque. Ça ne veut pas dire que ça va vendre, mais les artistes sont là.
Mais ils peuvent faire des shows grâce à ces disques-là.
Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Puis ça, c'est un peu l'importance des radios. Mr. Chandler, si notre chanson ne jouait pas à radio, je pense pas qu'on aurait les shows qu'on a. Tu sais, parce que le monde, ils savent pas que ça existe. C'est une autre affaire sortie dans le cyberspace parmi les 75 millions d'autres disques qui ont sorti ce mois-ci. Là, tu sais. C'est le genre de choses. La radio est quand même importante pour ça, pour que les gens y entendent parler de ça. Tu sais. Mais moi, je trouve ça cool parce que, surtout, moi, je suis quand même pas mal au courant de ce qui se passe au Québec. Puis je vois le niveau créatif, les disques, ça a monté beaucoup quand les ventes y ont baissé. Ou peut-être les ventes y ont baissé parce que les disques sont plus créatifs, je ne sais pas. Mais c'est juste... On dirait quasiment que les artistes ont dit, écoute, je vais gagner ma vie avec la tournée, mon album, je veux que ça soit vraiment à mon goût. Il n'y a pas une grosse compagnie de disques qui va me dire quoi faire. Tu sais, à l'époque, quand moi j'ai commencé, mais comme toi aussi, faire un album avec un budget de... en bas de 75 000, c'était difficile. Tu sais, aujourd'hui, on fait des disques pour 10 000, 15 000, c'est comme beaucoup moins. Puis c'est des super bons disques, tu sais. Puis t'as beaucoup plus de contrôle dans les mains de l'artiste.
Qu'est-ce qui va arriver en premier, un troisième album de Magneto ou un deuxième de Monsieur Chandler?
Wow! Oh, c'est une question, ça! Ça, on ne sait pas.
On sait pas, on navigue là-dedans, nous, on va voir qu'est-ce qui va se passer, on a des plans, on pense toujours, on a le goût de se revoir, alors c'est sûr. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer, c'est tout, on laisse les choses arriver, là on est bien fiers du premier Monsieur Chandler, et puis des Magneto aussi, là, je dois dire, mais... on va voir, tu sais, on va laisser les choses arriver comme ça, naturellement, comme ça s'est fait.
Il y a un album de M. Chandler, vous allez faire des shows, ça va être quoi les autres chansons? Parce qu'évidemment, il manque de chansons. Un album, c'est pas assez pour faire un show. Est-ce qu'il va y avoir des jams de Magneto? Ça ressemble à quoi?
On a nos plans, là. On a notre petit plan de mise en place pour le show. Et puis, c'est ça, on va être bien entouré. On se laisse aller un petit peu plus dans les chansons aussi. Ian peut en faire, on peut en faire. Tu sais, on a un petit... une bonne idée de ce qu'on veut faire. On va essayer de vous donner un spectacle, entre autres à Sorel, là, le plus complet possible. On va essayer de ne pas vous ennuyer, c'est sûr. On va avoir beaucoup de fun.
Est-ce qu'on se paye un trip de musicien, cette tournée-là? Parce qu'on disait que là, vous n'êtes pas à l'arrière, donc il n'y a pas l'artiste à l'avant, c'est vraiment un band. Donc, on se paye un trip de musicien différent de quand on est accompagnateur.
Oui. C'était pas le mot, je cherchais le mot. C'est le même rôle, on accompagne des chansons quand même. C'est des chansons.
Oui, tout à fait.
Mais le rôle de l'instrumentiste, il peut peut-être être un peu plus élargi. C'est un mot en français.
Oui, excellent ça.
Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Hey, merci à toi, c'est super fun.
Merci Luc, merci beaucoup.
Merci.